Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Nous évoquons aujourd'hui, avec beaucoup d'émotion, la figure de Jean-Paul II avec mon invité, Monsieur André Damien. Monsieur Damien, bonjour.
Bonjour.
Vous prononciez en mars 2003, devant vos confrères de l'Académie des sciences morales et politiques, une communication consacrée au pape Jean-Paul II. Cette communication est d'ailleurs retransmise et régulièrement sur notre antenne Canal Académie. Et en avril 2005, comme nous venons de le vivre, Jean-Paul II mourait. Il s'est éteint, faut-il le rappeler, le samedi 2 avril. Et nous sommes désormais après un adieu qui a rassemblé des millions de fidèles à Rome. Monsieur Damien, vous êtes juriste. Vous avez une très longue carrière à la fois d'avocat, de président de la conférence des bâtonniers, de conseiller d'État. Mais vous avez aussi exercé des fonctions de conseiller auprès des ministres de l'Intérieur pour les cultes, puisqu'on sait qu'en France, je le dis pour nos auditeurs étrangers, en France, le ministre de l'Intérieur est également chargé des cultes. Vous avez donc été conseiller de M. Charles Pasqua et conseiller de M. Jean-Louis Debray. Et là, M. Raffarin vient aussi pour les cultes de vous confier cette commémoration de 1905, cette loi de séparation des Églises et de l'État. M. Damien, en quelles circonstances aviez-vous rencontré le Saint-Père ?
J'ai rencontré plusieurs fois. L'une d'entre elles, je représentais le ministre de l'Intérieur pour les obsèques du cardinal Garonne, et donc je l'ai vu, mais assez brièvement. Et puis une autre fois, avec un de mes camarades de régiment qui était évêque, j'ai été admis à une audience et à sa messe, et j'ai pu donc échanger quelques mots avec le pape, qui était à la fois impressionnant et proche et simple.
C'était en quelle année ? C'était il y a
longtemps ?
C'était
il y a 5 ans.
Il y a 5 ans, donc il n'était pas encore malade, il était...
Il souffrait déjà un peu, mais enfin il n'était pas dans l'état qu'on a connu, cet état de presque martyr qu'il a subi les dernières années, et qu'il n'a pas remis en cause d'ailleurs son intelligence, contrairement à ce que certains ont dit. J'ai des témoignages sur ce point, puisque Monsieur Di Falco était allé le rencontrer, il avait fait l'exposé des problèmes de son évêché, comme on doit le faire. Le pape lui pose une question, il répond à une question à laquelle il avait déjà répondu. Il n'a pas dit « Non mais passons, vous venez de me le dire ».
Ah oui, donc sa maladie atteignait plutôt ses facultés physiques.
Ah oui, physiques, mais absolument pas les mentales.
Surtout lui qu'on avait connu comme un homme très sportif, enfin très, très évidemment après 25 ans de pontificat, on avait connu un pape jeune et on a aussi eu, j'allais dire, la chance de connaître un pape âgé et malade qui a supporté courageusement sa maladie. Quel est votre sentiment quand vous étiez en sa présence ? Quelle émotion ressentiez-vous ?
Alors, il y a d'abord une émotion religieuse, j'allais dire, mais elle est valable. Le premier pape que j'ai rencontré, c'est Pie XII, en 1950. Il est évident qu'il avait une sorte d'attraction sur les foules qui était extraordinaire. Moins net avec Paul VI qui n'avait pas ce caractère impressionnant, très net avec Jean-Paul II qui était à la fois impressionnant comme représentant du vicaire du Christ sur la terre, mais en même temps par la proximité qu'il arrivait à mettre avec chacun de ses interlocuteurs.
Ah, vous avez fait un oubli de pape, c'est Jean XXIII. L'avez-vous rencontré ?
Ah oui, alors Jean XXIII, je l'ai rencontré quand il était nonce et on s'est revu et puis j'ai connu c'est un de ses camériers secrets participants. Et alors, c'était assez amusant parce que il était assez farceur, si j'ose dire. Alors, un jour, il demande à son camérier secret participant, au moment de recevoir Kennedy et sa femme, comment je lui dis ? Je lui dis « Madame la Présidente ». Alors, il lui dit « Non, Saint-Père, vous lui dites « Madame », c'est tout ». Alors, il répète 4-5 fois pour être sûr de ne pas se tromper. Donc, « Monsieur le Président, Madame ». Et dès qu'elle entre, il dit « Hello, Jackie
». Merveilleux. Revenons donc à cette communication que vous avez prononcée devant l'Académie des sciences morales et politiques, où vous avez non pas dressé un portrait du pape en rappelant toute sa biographie, mais vous avez surtout insisté sur ce pape qui a apporté un ton original à sa manière de diriger l'Église. Et c'est surtout de cela que je voudrais que nous parlions ensemble. Qu'est-ce qui dominait le pontificat de Jean-Paul II ? Quelle était la nouveauté qu'il apportait véritablement ?
C'est la liberté. Et je crois que ce qui est très profond, c'est que l'Église, peu à peu, au cours des âges, et surtout à partir de la Révolution, était devenue obsidionale. C'est-à-dire qu'elle était dans une forteresse assiégée par les incroyants, par les libres penseurs, par les voltairiens. Et de là, en sécurité derrière ses murs, elle lançait des bombes ou des obus sur ceux qui l'attaquaient. Le plus typique, c'est Grégoire XVI, avec sa fameuse encyclique dont j'oublie le nom, mais qui est effectivement un monument d'obscurantisme, dans la mesure où il condamne la liberté de la presse, la liberté politique, l'obéissance des sujets à leur chef, y compris pour les Polonais, dont le chef était d'une autre religion, puisqu'il était orthodoxe, et qui avait une certaine persécution de l'Église de Pologne, à l'époque, nous sommes sous la Restauration. Et ça a été continué un peu par Pie IX, encore que Pie IX ait été plus libéral qu'on ne le pense, et que ne le laisse penser le Syllabus et Quanta Cura. Mais l'Église était donc toujours enfermée avec ses condamnations d'une part, qu'elle portait, et d'autre part, la piété des foules, mais une certaine hantise obsidionale. Or, Jean-Paul II brise cela d'un seul coup. Il le brise par le « n'ayez pas peur »,
et qu'il dit... Sa formule oui. Qui a révolutionné, une formule audacieuse.
Formule audacieuse qu'il a tirée d'ailleurs des Saintes Écritures, puisque c'est dans les Évangiles, le « n'ayez pas peur ». Mais il l'a appliqué à des personnes qui étaient un peu effrayées par la modernité qui arrivait, par l'évolution des mœurs, l'évolution des doctrines, la liberté actuelle qui est contraire souvent au droit naturel. Et c'est brusquement cette phrase « n'ayez pas peur ».
Voilà, il l'a prononcée la première fois, je l'ai noté dans votre communication, le 22 octobre 1978.
Exactement.
Donc ça marquait vraiment un esprit nouveau.
Un esprit nouveau.
Un esprit nouveau.
Et alors, ce qui a suivi cet esprit, c'est une manière d'être nouvelle. Je donne un exemple très précis. C'est que c'est un pape, un des premiers, qui n'a pas peur du corps. Le corps a toujours été une chose considérée comme dangereuse et à la limite impure dans l'écriture, dans la statuaire, dans la peinture. Il faut être Michel-Ange pour inventer ces anges.
La chapelle Sixtine, bien sûr.
Mais un pape plus prudent les a culottés. On l'avait appelé le culottier de la chapelle Sixtine. Et la Restauration a permis d'enlever ces repeints qui étaient sans intérêt, mais qui montraient bien un certain esprit, n'est-ce pas ?
Oui.
On se méfie du corps. Et la première fois, Jean-Paul II, c'est un simple exemple, c'est pas de la doctrine, mais montre cette sorte de facilité qu'il a. C'est un jour à Gênes, des jeunes filles viennent lui apporter des fleurs dans un stade plein, plusieurs centaines de mille personnes, et brusquement, la petite vient lui apporter son bouquet de fleurs, et il la prend dans ses bras et il l'embrasse.
Oui.
Et à côté, le cardinal Siri, elle passe au cardinal ensuite, et lui, je lui donne son anneau à baiser.
Oui, c'était alors, très caractéristique.
C'est très caractéristique.
Une différence de style.
Voilà. Le second était beaucoup plus dans le protocole classique. Le pape était d'une immense liberté, liberté qu'il a montrée en faisant installer une piscine à Castel Gandolfo, dont il se servait en étant un alpiniste,
un skieur, un kayakeur,
il a eu des succès même en kayak, des qualifications. C'est le premier pape qui n'a pas peur du corps.
Oui, c'est vrai que peut-être cet aspect lui a donné une popularité auprès des jeunes, je suppose.
Certainement.
Oui,
Et cette popularité a été accentuée par la suite par sa faiblesse. Car les jeunes qui l'acclamaient, qui l'accueillaient, avaient le sentiment qui le protégeait contre le mal. Et je l'ai vu très bien au JMJ, chaque fois que le pape n'arrivait plus à prononcer son discours, les applaudissements des jeunes se déclenchaient et ils reprenaient, comme s'il avait été magnétiquement encouragé par ce contact avec les jeunes.
Un échange d'énergie
entre les
deux. Et c'est vrai que c'était très émouvant, ces JMJ. En effet, malheureusement, celles qui vont avoir lieu cet été à Cologne ne seront plus avec Jean-Paul II, mais enfin avec son successeur, qui n'en sera peut-être pas moins bien et peut-être aussi populaire
et
auprès des
jeunes. Qui sera aussi populaire et qui va essayer de conserver ce style qu'il a donné, ce style particulier, inimitable, en tout cas sans précédent dans l'histoire de l'Église.
Alors une réhabilitation du corps bien portant, sportif et en bonne santé, mais aussi il a montré le corps souffrant, malade, vieillissant, et ça fait partie aussi des problèmes de l'humain. Donc il n'a
je crois que c'est la première
accepté.
Fois. Il y avait eu avant lui Léon XIII qui était porté sur une petite chaise à porteur, mm-hmm. puisqu'il pouvait pratiquement plus se déplacer. Mais c'était, on cachait cette chose-là. Et ce pape a accepté, avec la chaise roulante, etc., d'abord les papas mobiles, et puis ensuite ces sièges sur lesquels on le transportait, il a accepté ces infirmités et elles ont contribué, à mon avis, à sa popularité, parce qu'il a accepté la souffrance physique que nous avons du mal à accepter personnellement, ça va de soi, mais même vis-à-vis des autres. Les infirmes sont considérés par les bien portants avec une certaine gêne. Et là, on est bien obligé d'accepter un pape infirme.
Et un pape dont le corps a souffert, puisque tout le monde se souvient tout de même qu'il a été victime d'un attentat. Et on se souvient aussi avec émotion de ce geste inouï qu'il a osé aller visiter en prison son
assassin.
Son assassin. Oui. Comment aviez-vous vécu à l'époque cette...
Je pense que c'est un geste admirable que d'être allé le voir avec une simplicité évidente. J'allais dire qu'il est allé le voir comme s'il le confessait, en fait, pour montrer qu'il le pardonnait. Qui voyait que s'il était un instrument du sort, ou disons de la providence. Alors il a pensé, le pape, avoir été protégé par Dieu d'abord, mais par la Vierge de Fatima, et donc la balle qu'on a extraite de lui, il l'a offert au sanctuaire de Fatima, pour lequel il avait une grande dévotion.
Est-ce lui qui a fait lever justement le troisième secret de Fatima ?
Oui. C'est à lui qu'il a été révélé par les voyants, et il l'a rendu public. C'était d'ailleurs pas un secret effrayant en soi, n'est-ce pas ? C'était un additif à cette espèce de conversion du monde slave qui avait été prévue par les voyantes et dans la révélation de Fatima, et qui a été réalisée.
En effet. Avec André Damien, nous évoquons la figure de Jean-Paul II, le pape qui vient de nous quitter, sans doute pour sa vie éternelle et qui sera peut-être sanctifié très prochainement. En tout cas, le peuple réclame ça, le peuple catholique et le peuple chrétien. Nous nous retrouverons dans un petit moment et nous évoquerons un petit peu le côté doctrinal de ce pape. A-t-il apporté des nouveautés et quelles ont été ces nouveautés à la fin de ce millénaire et pour ouvrir le troisième millénaire? On se retrouve dans un instant avec André Damien.
Canal Académie.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire, leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie. Toutes les générations se retrouvent sur Canal Académie. Parce que l'histoire est un éternel recommencement, chaque génération enrichit son présent et son futur. Académiciens et élèves de grandes écoles se retrouvent quotidiennement autour du micro de Canal Académie pour échanger leur point de vue sur un thème choisi. Un thème, un académicien, des élèves. Plusieurs générations se rencontrent, toutes se retrouvent. Écoutez-les sur Canal Académie, la première radio académique francophone. www.canalacademie.com.
On retrouve Hélène Renard.
Nous revenons avec André Damien, qui veut bien venir évoquer avec nous dans cette émission éclairage la figure de Jean-Paul II, qui a fait l'objet de sa communication prononcée en mars 2003 devant l'Académie des sciences morales et politiques. Je souhaitais que vous parliez, monsieur Damien, du côté doctrinal de Jean-Paul II. Est-ce un pape qui a fait des révolutions en matière de doctrine ?
Je ne pense pas. Il y a eu des révolutions par Pie IX avec l'infaillibilité, avec la proclamation d'un dogme nouveau qui était l'Assomption. Il y a eu avec Pie X un certain nombre de spiritualités particulières qui ont été marquées et de révolutions doctrinales. Il y a eu le Concile avec Jean XXIII qui a fait progresser beaucoup de choses. Le pape actuel, si ce n'est une question d'atmosphère dans l'Église, qu'il a créé, qu'il a suscité, qu'il a régénéré, et notamment l'ouverture aux laïcs, qui brusquement sont chargés de la gérance du monde temporel, c'est-à-dire une tâche très spécifique, l'ouverture à un certain nombre de, de besoins de l'homme, et notamment l'écologie, sur laquelle il a parlé à plusieurs reprises, il n'y a pas de nouveauté doctrinale dans son pontificat. C'est ainsi qu'il n'a rien changé sur le mariage des prêtres, il n'a rien changé sur l'accession des femmes au sacerdoce, sa position est ferme, il n'a rien changé sur d'autres points beaucoup plus simples, qui sont la condamnation de la mort partout où elle est, c'est-à-dire de l'avortement, de l'euthanasie, et la condamnation sur le plan des principes d'un certain nombre de déviations qui deviennent totalement banales à notre époque, dont il ne condamne pas les auteurs, mais dont il condamne les principes, si on voulait les régir en principe, à savoir que le mariage est une chose sainte et sacrée, que le mariage est indissoluble par nature, et qu'on doit tâcher de demeurer dans les liens du mariage, et l'homosexualité, dans laquelle il voit une faute. J'ai pas dit un vice, j'ai pas dit non plus un péché en soi, mais une faute contre la sexualité épanouie, qui est celle de la nature à laquelle le pape, comme l'Église, continue à penser. Il y a une nature fabriquée par Dieu et qui postule l'accueil de la vie et le refus de tout ce qui est contre la vie.
Donc cette morale assez classique, disons plutôt traditionnelle, le pape Jean-Paul II l'a néanmoins exprimée à de nombreuses reprises, car il a beaucoup écrit. C'est un pape qui s'est beaucoup exprimé.
Alors, il a parlé, il a écrit énormément. Là, il y a, je sais pas, 2000 pages de discours, de constitution apostolique, d'encycliques, etc. Et notamment la dernière sur le nouveau millénaire, qui est extrêmement intéressante, et dans lequel il a rappelé une morale très classique, qui n'a rien d'original, et il a rappelé également l'appel de l'homme à la sainteté. C'est assez audacieux, parce que on pensait que la sainteté était réservée aux prêtres, aux moines, aux religieuses.
Aux gens consacrés.
Aux gens consacrés. Or, brusquement, pour la première fois, il dit, mais ça, on le savait déjà, mais il le rappelle au monde entier, que la sainteté est ouverte à tous les chrétiens. Et lorsqu'il accueille des personnes venues de Lisieux, il leur dit, vous ne pouvez pas entrer au Carmel, comme sainte Thérèse de l'enfant Jésus qui est venu à Rome en pèlerinage, mais vous avez le besoin, le devoir de vous ouvrir à ces valeurs spirituelles que sont la prière, la sanctification, etc. Il montre bien que le laïc n'est pas un sous-produit de l'Église, n'est pas une sorte de valet de pied de l'Église, mais qu'il est un chrétien à part entière qui a exactement les mêmes devoirs et les mêmes aspirations à la sainteté que tout le peuple de Dieu.
Et vous, André Damien, qui avez certainement lu beaucoup d'encycliques de différents papes, est-ce que vous voyez un ton différent dans la manière d'écrire, dans la manière, dans les mots utilisés, dans le langage? Est-ce que ce pape-là s'exprime plus simplement que les autres?
Alors, les encycliques, en général, ne sont pas écrites par le pape. Elles sont écrites par les bureaux en fonction des schémas que le pape a donnés. Mais il est évident qu'il a veillé à ce que le style en soit clair, et je dirais pas très ecclésiastique, et ne soit pas cette espèce de cheminement prudent qui faisait
qu'on comprenait rien, peu de choses en tout cas.
Là, véritablement, les encycliques sont d'une grande clarté, aussi bien en matière sociale qu'en matière de génétique, en matière de sexualité, en matière d'amour, en matière de mariage, etc. Alors ça, je crois que la forme est assez originale, le fond est très classique vis-à-vis du peuple chrétien.
André Damien, comment peut-on dire que ce pape issu de la Pologne finalement tenait son originalité du fait qu'il était polonais, de ce pays qui est tout de même à un profil particulier?
Alors, il est d'abord le premier pape slave de l'histoire de l'Église. Or, les Slaves et les Polonais à l'intérieur du monde slave sont les seuls qui aient choisi Rome, mais Rome dès l'an 800, alors que les autres se sont réfugiés dans une église assez belle d'ailleurs, qui est l'église orthodoxe, avec le patriarche de Constantinople. Et bien avant la rupture qu'il y a eu entre l'église d'Occident et l'église d'Orient, il y a une marque différente d'attention, et le pape est très ouvert sur les valeurs que porte le monde slave. Valeurs spirituelles, valeurs d'enseignement, d'éducation et de spiritualité. Mais il y a une deuxième chose, il a vécu dans un pays occupé. Occupé d'abord par les Allemands, puisque c'est l'époque où il est entré chez Solvay comme ouvrier carrier.
C'est le seul pape travailleur manuel aussi, vous le dites dans votre communication.
C'est le seul pape travailleur manuel depuis Saint-Pierre. Et depuis, les papes qui avaient été mis ad metallas et qui par là même étaient obligés de travailler de leurs mains. C'est le premier pape qui soit vraiment un homme qui ait travaillé dans sa vie d'une manière manuelle. Protégé d'ailleurs par les autres ouvriers qui voyaient que les travaux étaient trop lourds pour lui et voulaient lui ménager les temps de prière puisqu'ils savaient qu'il était séminariste. Donc c'est la première chose, il vit dans un monde d'opposition aussi bien des Allemands que des Russes.
Que des Russes, oui. Ça,
et c'est... là, il a montré des qualités de diplomatie et d'autorité en même temps assez exceptionnelles. Dans le rapport qui a été fait par la police russe, enfin la police de l'Est sur lui au moment où il a été appelé à devenir évêque, ils disent qu'il est beaucoup plus habile que le Karen Wyszynski, il est très intelligent, mais nous n'aurons pas trop de mal avec lui. Or, ils se sont
trompés, oui.
Complètement trompés. Car en réalité, avec beaucoup d'astuces, si je puis dire, il a contourné les obstacles avant de les briser. C'est ainsi que un jour, on lui interdit de venir avec sa voiture à un pèlerinage. Et ben, on a la surprise, il abandonne sa voiture et vient à pied.
Voilà, tout simplement. Oui.
Tout simplement. Alors là, ils n'ont pas pu le coincer. Un de ses curés est mis en prison parce qu'il n'avait pas payé des impôts vexatoires et lourds, etc. Il vient dans l'église et dit « Désormais, je suis le curé de cette paroisse jusqu'à ce que votre desservant soit libéré. » Il a été libéré 8 jours après.
Vous dites aussi que son rapport aux Juifs est tout à fait particulier.
Alors c'est un rapport, d'abord c'est le rapport que l'Église a toujours dû avoir malgré des repentances nécessaires. Mais lui, il les a connus dans cette Pologne très juive, autrefois avant la guerre, qui n'est plus beaucoup puisque ils ont été tellement décimés.
Émigré, oui.
Mais il a vécu avec des petits juifs et il avait un de ses camarades de collège qu'il a continué à voir comme pape, qui était un jeune juif. Ce qui fait que il n'avait pas cette espèce de sentiment d'étrangeté devant le juif qui existait dans notre société du début du XXe siècle, où le juif paraissait, avec ses coutumes, avec ses règles, notamment les règles alimentaires, comme un être un peu à part. Pour Jean-Paul II, ça n'existe pas. Il a donc absolument, il a franchi ce pas que les autres franchissaient, mais par un travail de l'intelligence intellectuelle.
Voilà. Tandis que lui, c'était spontané, naturel. Voilà.
C'est spontané.
Alors, on va juste rappeler que le pape est né le 18 mai 1920, en Pologne évidemment, à Wadowice, qu'il a été prêtre en 1946, évêque auxiliaire en 1958, archevêque de Cracovie en 1960, puis cardinal en 1967 et pape en 1978. Voilà résumé très brièvement la carrière de Jean-Paul II. Parlons un instant, si vous voulez, de son travail à Vatican II, donc dans les années 67-68, par là.
Alors c'est assez intéressant, il n'a pas pris la parole comme un bavard impénitent, mais il avait fait d'abord un rapport préparatoire comme tous les évêques, et ensuite il est intervenu 4 ou 5 fois au Concile. Et ces interventions ont toujours été pour l'ouverture de l'Église, l'écuménisme en rappelant qu'il vaut mieux rappeler ce qui nous unit que ce qui nous divise, et en même temps sur une liturgie ou un abord plus accessible de l'Église, ce qui fait que ce sont des interventions assez audacieuses. Il avait été très audacieux dans son cours de morale de Cracovie, où il avait enseigné, de Lublin, où il avait enseigné comme professeur de morale pendant jusqu'à son élection au pontificat, et il avait écrit dans son cours de morale quelque chose d'assez original, mais enfin qui nous paraîtra un classicisme absolu, c'est que la première fin du mariage, c'est la procréation, mais la seconde fin du mariage, c'est l'épanouissement des personnes, des époux. Or, cette théorie avait été exprimée par un théologien allemand, Herbert Doms, et condamnée sous Pie XII. Eh bien, lui, il enseigne tranquillement, avec la certitude qu'il ne peut pas se tromper, non pas parce qu'il est pape, mais parce que c'est le bon sens qui montre que l'achèvement de la personne des époux est une des raisons du mariage, et non pas simplement la procréation isolée de son contexte.
Ce qui prouve que les idées avancent, mais qu'il faut quelqu'un pour les propulser, oui, pour les soutenir, et que le pape a été ce quelqu'un, à votre avis ?
Alors, à mon avis, il a fait progresser un certain nombre d'idées. Alors, parce qu'il n'a pas parlé expressément du préservatif, il a été considéré par un certain nombre de gens immatures comme un pape hostile à toute sexualité. Et notamment, des jeunes Français se sont baladés avec des pancartes, etc., en disant que le pape était contre tout contrôle des naissances, etc., etc., etc. C'est pas vrai, il n'a jamais prononcé le mot, n'est-ce pas ? Mais il n'a pas condamné en Afrique, il n'a pas enseigné le préservatif comme le remède au sida, il n'a pas dit, mais il n'a jamais eu de condamnation absolue des pratiques qui ont pourtant de protection d'une sexualité raisonnable. Alors ça, il y a eu des procès d'intention qui lui ont été faits, mais il les a ignorés avec facilité. Je dois dire qu'il allait parfois jusqu'à l'invective, c'est-à-dire que notamment quand il était à Cuba ou à Haïti, il a, permettez-moi le mot, poussé les coups de gueule.
Oui, il n'hésitait pas à dire ce qu'il avait à dire.
Il n'hésitait pas à dire ce qu'il avait à dire, et pas en termes voilés,
voilà,
diplomates,
oui,
etc. Ça tombait comme ça tombait.
Et tout le monde comprenait.
Et tout le monde comprenait ce qu'il voulait dire.
André Damien, nous allons vous retrouver dans un petit moment, marquer une pause maintenant, et quand nous nous retrouverons, on continuera à évoquer avec vous la grande figure de Jean-Paul II, et notamment dans ses relations avec le communisme. À tout à l'heure.
Canal Académie.
Avec André Damien, nous poursuivons ce portrait sur le pape, ce portrait du pape Jean-Paul II. Nous allons maintenant évoquer, si vous le voulez bien, sa condamnation, parce que je crois qu'il faut employer le mot, à la fois du communisme et du capitalisme comme deux systèmes qui broient l'être humain d'une manière différente, mais il les a tous les deux condamnés.
Alors, c'est son originalité, c'est d'avoir été aussi clair dans sa condamnation. Certes, les papes, notamment par Divini Redemptoris, avaient condamné le communisme athée. Ils avaient même, par la fameuse encyclique qui n'est jamais sortie parce que Pie XI est mort avant, condamné le fascisme. Mais ils avaient condamné les excès du capitalisme. Il n'y a qu'à relire Rome Novarum de Léon XIII, qui est un siècle avant. Mais ce qui est intéressant, c'est que il condamne d'une manière formelle le communisme défini par l'athéisme programmé, organisé et structuré dans un système politique. Et en même temps, il condamne le capitalisme qui broie les personnes, condamnation de la civilisation de consommation. L'Église veut se maintenir libre face au système opposé pour n'opter que pour l'homme. Et il n'hésite pas à dire qu'il faut que la société se convertisse. Et il a même un mot assez jeune quand il dit à la clinique Gemelli dans son message du 13 octobre 1996 « Tenez bon, ne pas mollir ». C'est un terme très, très jeune et très dynamique, mais qui monte bien. Alors c'est une condamnation de tout ce qui broie l'homme, aussi bien dans le communisme, où il n'est pas nécessaire de faire une démonstration parce que les gens le comprennent, que dans le capitalisme.
Ce qui est plus subtil, oui, absolument.
Subtil, enfin... Parce que le capitalisme, le libéralisme, ça fait partie d'une certaine nombre de valeurs, de sociétés, etc. Alors lui, il condamne les excès du capitalisme avec une fermeté, car il a un côté prophétique qui est très net.
Alors, évidemment, tous ces voyages, je crois qu'il en a fait plus d'une centaine, je ne sais pas le nombre exact, mais plus d'une centaine certainement, sont autant d'occasions de redire qu'au fond, le message chrétien, c'est la préservation de l'être humain et que tous les systèmes politiques et économiques qui peuvent le broyer sont aussi nuisibles les uns que les autres.
Alors, ces voyages ont été une immense prédication. Avant, les papes ne bougeaient pas. Le premier pape à avoir bougé, mais c'était
c'est Paul VI, il a bougé. Oui.
Oui, il a bougé, mais le premier pape à avoir bougé, c'est Pie VI, qui est venu en prison à Valence, et ensuite Pie VII.
Ah oui, 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 vous remontez
venu,
loin, là,
oui,
vous nous remontez loin.
Qui est venu consacrer Napoléon.
Napoléon.
Donc les papes, avant, ne bougeaient pas, et puis après, ils ont été prisonniers dans Rome, puisque après la prise de Rome par Victor Emmanuel et la monarchie de Savoie. Et pour la première, Paul VI a commencé à beaucoup voyager, et le pape a beaucoup voyagé, mais d'une manière très curieuse, parce que ces voyages n'ont rien d'officiel, si je puis dire, sauf les accueils officiels réservés à un des plus grands esprits du siècle et à un souverain. Mais quand il est dans l'avion avec les journalistes, on peut lui poser, j'allais dire, n'importe quelle question. Il n'y a pas le formulaire qu'on doit remplir avant pour poser une question. Il discute, et il discute librement, en prenant toujours son point de vue. Il n'a pas peur de faire peur, si son propos ne plaît pas, mais il est d'une grande liberté. Et je pense que ces voyages ont été pour lui une occasion de prédication extraordinaire. Il a fait tous les pays du monde, il a condamné tout ce qui n'allait pas dans les pays où il allait, en le disant avec netteté et fermeté, et puis il a condamné la guerre, sous toutes ses formes. Et là, j'ai une anecdote qui est typique. Le chargé de la relation de presse du Vatican fait une déclaration en disant que la guerre, même défensive, est interdite, sauf si les valeurs en cause à défendre sont supérieures au drame que constitue la guerre. Immédiatement, fulgurant, un communiqué du secrétariat particulier du pape qui dit « Le chargé de presse a parlé sous sa propre responsabilité, le pape a rappelé que la guerre est interdite. » En tout
un
cas,
point, c'est tout.
C'est tout.
Voilà. Donc un démenti,
formel qui joue dans la
pensée.
Journée.
Oui, oui.
Et c'est une position qui n'avait pas une originalité très grande, car vous trouvez la même chez Pie XII. Et vous trouvez la même chez quelqu'un qui était considéré comme un homme de droite, le cardinal Ottaviani, qui dans ses traités de théologie morale condamnait la guerre, même défensive. Parce que la guerre, même défensive, est un écrasement d'un des deux partenaires, et par là même, est dangereuse pour la survie de l'humanité et pour le bien commun. Et c'est très net de voir que il reprend la position de ses prédécesseurs, mais il lui donne brusquement une ampleur qu'on n'a jamais connue.
Alors ce pape Jean-Paul II restera aussi dans nos mémoires par les repentances qu'il a eu l'audace et le courage, la lucidité de prononcer. Comment voyez-vous cette manière de se repentir et quel bienfait l'Église a-t-elle pu en tirer ? Alors,
c'est une de ses grandes originalités, avec l'affaire d'Assise, qui a été si mal interprétée par un certain nombre de gens mal intentionnés, c'est que l'Église traîne un vieux contentieux d'une vieille institution. Il y a donc Galilée, dont on nous parle toujours. Il y a
les croisades.
Il y a l'Inquisition.
Plein de choses,
il y a tout plein de choses que, dont on accuse l'Église avec une certaine.
Plus ou moins d'informations, faut bien dire.
Plus ou moins d'informations, mais une certaine vérité historique sur certains points. Et brusquement, ce pape condamne cela et effectue une repentance publique en disant l'Église, sur ce point, dans son existence, et non pas dans sa doctrine, a fait des sottises. Et ces sottises, je les reconnais personnellement au nom de l'Église et je demande pardon à ceux qui en étaient les victimes, et notamment aux Juifs qui avaient été effectivement victimes, surtout avant la Révolution, mais après dans les mentalités, mais avant la Révolution dans le problème des convertis de force, tous les maranes qui avaient
en
été...
Espagne, en Espagne particulièrement, oui.
Alors tout ça, on a des repentants sur ce point qui montrent un changement de cap radical sans changement de doctrine. Car l'Église, dans son existence active et par ses ministres, a pu se tromper, ça ne change ni la doctrine, ni la mission de l'Église. Et je crois que c'est assez important ce qu'il a fait. Alors Assise, c'est une...
Oui, parlons de cette dimension œcuménique de Jean-Paul II. Enfin,
sa dimension œcuménique est très grande. Elle continue d'ailleurs ce qu'avait fait Paul VI, qui avait des gestes symboliques extrêmement marqués.
Oui, mais puisqu'il s'était réconcilié avec Athénagoras,
exactement.
C'était Paul VI. Oui, oui.
Et le seul avec lequel Jean-Paul II n'a pas pu se réconcilier, c'est le patriarche de Russie, parce qu'ils sont tellement anti-latins, qu'il n'y a rien à faire.
Là, on va attendre un peu que les mentalités évoluent.
Déjà, le mur de Berlin est tombé, c'est déjà pas mal. Et alors, il est évident qu'il croit au combat spirituel, il croit à des valeurs spirituelles dont nous n'avons pas le monopole, bien qu'elles sont les seules qui amènent au salut.
Ça, il a dit cela formellement.
Oui, il n'est pas latitudinariste. Latitudinarisme est une hérésie qui constitue à dire que toutes les religions se valent et que du moment qu'on les pratique gentiment, on arrive gentiment au ciel.
Donc ça n'est pas sa position.
Ça, ce n'est pas du tout sa position. Il dit simplement, toutes les religions ont des valeurs spirituelles sur lesquelles on doit méditer, qu'on doit respecter, ce qui n'empêche pas le désir de conversion. Et il rassemble à Assise un certain nombre de personnes venant de tous les horizons spirituels, et notamment des bouddhistes, et ils font une sorte de prière commune, d'invocation à une plus haute spiritualité. Alors, les méchants, c'est-à-dire ceux qui ont l'esprit étroit, sont dit « Oh, c'est une attitude latitudinariste, le pape dit qu'il n'y a pas de religion vraie, que toutes les religions sont vraies,
etc. » C'était mal perçu, en effet.
Très mal perçu, mais le geste est très profond dans son fondement, puisqu'il montre bien que dans chaque religion, il y a une tentative d'approche du mystère de Dieu. C'est nous.
Et en principe, un respect de l'homme aussi.
Et un respect de l'homme qui va de soi.
En principe, oui.
Et donc, on n'a pas le droit de... C'est la condamnation du GI sous toutes ses formes. On n'a pas le droit de forcer les gens à pratiquer une religion qu'ils ne veulent pas. La liberté de l'homme est totale et la sanctification de l'homme est le fruit de son combat intérieur et non pas d'un combat extérieur.
Donc un pape qui a apporté en effet non pas une révolution de doctrine mais tout de même des grands changements dans les mentalités, en tout cas, par cette... appel à la paix, cette condamnation de la guerre, condamnation des systèmes communistes capitalistes, ce qui faisait qu'on n'était plus dans la guerre froide, d'ailleurs,
à cause
de lui.
Ça a changé. Tout ça a été fini. Il est allé chez Castro. Il lui a donné à la fois des encouragements pour ce qu'il a fait de bien et des condamnations sévères et publiques pour ce qu'il avait fait de mal. Mais Castro n'a pas été rancunier puisqu'il a ordonné, je ne sais plus, un mois de deuil plus qu'en France. Un certain nombre d'imbéciles se sont étonnés qu'on mette les drapeaux en berne alors que...
Je pense que cette idée vous a beaucoup énervé,
C'est tellement sot. Alors, que je la trouve chez un monsieur comme Mélenchon, ça ne me choque pas, ça fait partie de ces catégories, mais que je la trouve sous la plume ou sous la... d'un dirigeant ancien MRP, moi, alors là, je trouve que que c'est vraiment d'une sottise rare.
Bon, donc il y a encore là aussi des progrès à faire. Mais donc ce pape a aussi beaucoup rencontré Gorbatchev. Ça a
Tout
été aussi
fait.
Des grandes rencontres.
Et je crois qu'il est né une estime réciproque et que Gorbatchev a été impressionné par la dimension humaine et spirituelle du pape, cette espèce de spiritualité qui ruisselait de lui et qui rendait attentifs les gens. Je pense que la Russie est passée dans le monde normal, enfin, c'est-à-dire dans un monde libre.
Relativement. Mais
relativement
enfin,
libre. Bon. Elle y est passée peu à peu et beaucoup en raison de la personnalité du pape et de son action
oui.
sur la Russie.
Donc André Damien, vous êtes-vous de ces gens qui pensaient que, d'une certaine manière, on doit la fin du communisme et la chute du communisme
oui.
au pape Jean-Paul II ?
Gorbatchev l'a dit et je qu'en grosse partie, c'était dû à l'action du pape. Et je pense qu'effectivement, son voyage en Pologne au moment des élections avec Lech Wałęsa a été assez déterminant.
Madame Gorbatchev aussi, Raïssa Gorbatchev,
oui,
je crois, a joué un grand rôle parce
très,
qu'elle
très
était
attentive.
Aussi très attentive, je crois. Enfin, elle le dit en tout cas dans ses mémoires qui sont de ce point de vue intéressantes à lire. Ce pape est donc un leader reconnu mondialement, un homme qui a œuvré pour la paix. Est-ce un pape qui s'adresse simplement à son Église ou a-t-il une autre dimension ?
Alors, il s'adresse à son Église et il la révolutionne par un certain nombre d'aspects qui sont dans sa prédication, dans son action et au cours de ses voyages. Mais il s'adresse au monde entier. Il va beaucoup plus loin et c'est la raison pour laquelle il sera respecté chez les Juifs, je veux dire dans l'État d'Israël et chez les Juifs en général. Il sera respecté en Égypte, il sera respecté partout. Alors, si l'on devait faire une analyse sérieuse et historique du rôle de Jean-Paul II, je pense qu'il a géré la curie avec moins d'audace qu'il n'a géré les affaires du monde. Car il était étranger à la curie. Il était venu à Rome, certes, mais il n'était pas un habitué de la curie comme l'était Paul VI, qui avait été secrétaire d'État pendant un certain nombre d'années. Et je pense que sur ce domaine, la curie était un peu un organe indépendant qu'il savait rappeler à l'ordre, et je vous ai cité son communiqué à propos de la guerre défensive, mais qu'il a laissé un peu la curie agir en toute liberté. Et je pense qu'il est vraisemblable que les cardinaux, instruments du Saint-Esprit, en la matière, choisiront comme pape quelqu'un qui connaît bien le maniement de la curie, un peu, si vous voulez, toute proportion gardée, comme un ministre de l'Intérieur connaît bien ses préfets, ses administrateurs, ses sous-préfets, et peut être le patron qui donne des instructions qui ne s'en vont pas en poussière au fur et à mesure qu'il les donne.
Mais vous pensez que c'est ce dont a le plus besoin l'Église contemporaine, d'un pape qui va remettre de l'ordre dans la curie ?
Je pense qu'elle a besoin de quelqu'un qui continue l'espèce de message étonnant de Jean-Paul II, qu'il faut continuer l'écuménisme, ses voyages, cette espèce de contact avec le monde. Je pense qu'elle a besoin de certaines réformes disciplinaires, notamment sur la différence entre le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction, qui est un sujet extrêmement important, qui n'a pas été abordé encore, qui ne va pas du tout au sacerdoce universel, ni aux ordinations des femmes ou des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a dans l'analyse du pouvoir d'ordre et de juridiction quelque chose d'intéressant. Et je pense aussi que la présence de quelqu'un connaissant bien la curie et sachant la manœuvrer avec intelligence
et autorité,
est une chose que vraisemblablement les cardinaux seront peut-être amenés à prendre en compte lors de ce conclave.
Ça voudrait dire un pape avec un profil un peu plus juriste que
oui.
celui-ci était plutôt théologien.
Théologien, moraliste, charismatique, à un point fabuleux.
Ce sera dur d'être derrière, évidemment, plus charismatique.
Dur, n'est-ce pas ? Moi, je plains le prochain pape quand il va sortir sur la place Saint-Pierre pour trouver les premiers mots qu'il va dire. Car le « n'ayez pas peur » était quelque chose de fabuleux.
Oui,
et ajoutant, je me souviens d'un pays lointain, mais désormais, je suis romain.
Oui,
oui je suis
oui,
romain.
Car on oublie aussi que le pape est
l'évêque
aussi
de Rome,
évêque de Rome.
À la suite
oui.
de Saint-Pierre. Et il dit, j'essaierai de parler votre langue, il se reprend tout de suite, il dit notre langue.
Notre langue, oui.
Puisqu'il il se reconnaît bien qu'il est romain à partir de ce jour-là. Alors, évidemment, je pense que le prochain pape aura des facilités de communication dans les langues. Lui, il les avait toutes, comme les Slaves.
Oui, oui,
ça c'est... Qui ont l'oreille musicale, qui savent parler toutes les langues et qui les apprennent facilement. Nous, les Français, on ne sait jamais parler aucune langue, même pas le français d'ailleurs.
On fait des efforts. Avec André Damien, nous allons maintenant marquer une troisième pause avant de nous retrouver pour continuer à dresser le portrait de Jean-Paul II et en tout cas à examiner ce que ce pape a pu laisser pour ce début de troisième millénaire.
Canal Académie. Hélène Renard.
Nous retrouvons André Damien qui a évoqué la figure de Jean-Paul II lors d'une communication faite devant ses confrères de l'Académie des sciences morales et politiques en mars 2003 et qui aujourd'hui veut bien revenir à Canal Académie pour dialoguer sur le message de ce pape et sur la rénovation qu'il a apportée dans l'Église. André Damien, le pape est venu plusieurs fois en France, au moins deux fois officiellement, mais avant d'être pape, il était déjà venu en France, il avait étudié en France.
Oui, alors c'est ce qu'on l'ignore pas, car c'est connu, mais on n'y fait pas toujours attention. C'est que le pape qui a été ordonné, qui a fait un séminaire clandestin auprès du cardinal Saint-Pierre, oui. Puis le séminaire était interdit. Donc dès qu'il a l'occasion et dès qu'il peut trouver un visa, il y en avait quand même, vient d'abord à Rome, au collège angélique, chez les dominicains, où il apprend de la théologie. C'est à ce moment-là qu'il prépare sa thèse. Puis il vient à Paris, et là, alors, il découvre la mission de France, les prêtres ouvriers et l'abbé Gaudin.
Alors, qui est l'abbé Gaudin ? Éclairez-moi.
L'abbé Gaudin est un prêtre qui est mort prématurément, malheureusement, un peu dans les conditions de Zola, c'est-à-dire que son poil a donné de l'oxyde de carbone et il est mort comme ça.
Asphyxie.
L'abbé Gaudin était un homme qui s'était imposé pendant l'occupation et avant la libération et qui a écrit ce livre fabuleux qui s'appelle « France, pays de mission ». C'était une découverte.
Oui. Alors je l'ai lu et j'avais oublié que c'était lui.
Oui, alors c'est l'abbé Gaudin qui a fait cela et l'abbé Gaudin a connu Jean-Paul II et l'a marqué. Et Jean-Paul II a connu également... qui faisait partie de tout ce petit monde, Emmanuel Mounier.
Qui a eu de l'influence sur sa pensée, certainement.
Sur sa pensée,
oui.
Le personnalisme chrétien a eu certainement une pensée, il l'a ouvert par rapport aux enseignements classiques de l'Église. Donc je pense que ce premier séjour de Jean-Paul II, d'un Jean-Paul II jeune prêtre, qui est en train de conquérir...
Donc dans les années 48, 49,
ça,
oui.
Qui est en train de conquérir ses grades avant de repartir prendre son doctorat en théologie,
oui.
À Cracovie, a été très marqué par une Église de France qui était en pleine efflorescence. C'est l'époque de ce qu'on appelait les encycliques du cardinal Suard, c'est-à-dire tous ces grands textes que le cardinal Suard a posés et qui étaient attendu. Il y a eu un renouveau religieux et de la pensée. En France, on est sorti de ce que j'appellerais le monde du 19e sous l'influence d'un certain nombre de prêtres qui n'étaient pas des révolutionnaires, ce n'étaient pas des communistes, hein, ce n'étaient pas des révolutionnaires, mais c'était des gens qui avaient une ouverture nouvelle. Je pense à Gabriel Marcel, notre confrère de l'Académie, je pense à Emmanuel Mounier.
À Jean Guiton, vous pensez aussi ?
À Jean Guiton aussi, oui. Qui ont apporté une dimension nouvelle à l'Église. Et sur le plan de la pensée, Jean Guiton était à l'époque...
Plus lié à Paul VI, d'ailleurs.
Et puis
oui.
Parce qu'il sortait d'un camp de prisonniers pendant 5 ans, donc il avait été isolé de la France qui avait continué sa route sans lui pendant 5 ans. Ce qui fait que Jean Guiton va arriver un peu après ce premier courant, qui est ce courant, cette sorte de lave incandescente qui sort d'après la Libération et qui fait de Paris un des grands centres intellectuels du monde chrétien. Je ne suis pas sûr qu'il ait été ressenti comme tel par tout le monde, et notamment à l'étranger, mais nous l'avons ressenti comme ça, et Jean-Paul II l'a ressenti de cette manière, avec l'admiration qu'on donne à des professeurs estimés et aimés. Je pense donc que c'est le premier voyage qu'il a marqué. Puis alors ensuite, il a ses autres voyages, dans lesquels il découvre une foule heureuse, une foule attentive à sa parole, et il découvre les JMJ, dont il est un peu l'auteur, et qui, parce qu'on commence par des JMJ un peu primitifs et petits pour arriver à cette espèce de déferlement que sont les dernières JMJ, notamment en France et à l'étranger. Et je crois qu'il a été marqué par la France, qui, ne l'oublions pas, avait dans le monde chrétien, et encore, une réputation d'anticléricalisme notoire, et d'anticatholicisme et d'anticristianisme certain. Lorsque le grand maître de l'ordre auquel j'appartiens, je lui demande quelque chose, il dit, malgré son entourage, « Oh, les Français sont tellement anticatholiques, accordez-lui s'il sait ce qu'il demande. » C'est-à-dire que nous avons une solide réputation d'anticatholicisme. Nous avons été marqués par le Père Combes d'une manière vigoureuse et violente.
Oui, et qui perdure en effet. Alors cet ordre auquel vous appartenez, on va tout de même en dire un petit mot, puisque vous êtes lieutenant général pour la France de l'ordre du Saint-Sépulcre. Qu'est-ce que l'ordre du Saint-Sépulcre, André Damien ?
Alors l'ordre du Saint-Sépulcre est un ordre ancien qui remonte, non pas aux croisades, mais qui remonte aux pèlerins qui allaient à Rome et qui gardaient le souvenir d'un voyage en commun et qui conservaient. On les appelait des pommiers à cause de palmes qu'ils avaient portées. Palmier qui est devenu pommier, PAU. Et il est évident que ce Saint-Sépulcre, qui a été ressuscité par le pape Pie IX, qui a fait un acte sans précédent, redonnant aussi ainsi aux laïcs toute leur importance, c'est qu'il a admis que pour la première fois, les chevaliers du Saint-Sépulcre seraient adoubés de manière liturgique. Or, l'adoubement est un sacramental, c'est-à-dire que c'est un rite qui réalise ce qu'il signifie à la manière d'un sacrement, mais en dessous du sacrement, les grands sacrements, les 7 sacrements, vous les connaissez, et il y a les sacramentaux, qui sont de l'ordre des bénédictions, etc., qui transfèrent dans le domaine sacré. Et le Saint-Sépulcre a, sous l'influence de son actuel grand maître, beaucoup évolué, car si nous avons gardé notre tâche première, qui est la Terre Sainte, essayer de protéger la paix en Terre Sainte, nous avons également une préoccupation d'enseignement de la doctrine, d'étude de la doctrine et d'enseignement, et ensuite de découverte de la prière, qui est quelque chose qui fait défaut aujourd'hui. Je viens d'assumer une retraite des futurs adoubés dans un mois. Et ce qui m'a surpris, c'est la clarté de leurs désirs. Ils veulent savoir la doctrine et ils veulent apprendre à prier. Alors qu'il y a un siècle, le français moyen, qui était tout aussi religieux et pieux et méritant que nous le sommes, peut-être plus d'ailleurs, oui, parce qu'il respectait la morale d'une manière impeccable, ne savait absolument pas prier. Mon père, qui était un homme pieux et droit, quand il est allé à la messe, disait son chapelet. Ce qui est antiliturgique au maximum, ça n'a aucun rapport.
Oui, mais c'était une grande ferveur pour la prière.
Ah voilà, voilà. Et aujourd'hui, cette prière veut être plus informée, plus plus travaillé, plus pesé, et s'inspirer des grands exemples spirituels, et notamment de l'admirable école française de spiritualité fondée par Madame Macquarie, le cardinal de Bérulle, Gibieuf, Condrin, et toute cette Saint-Louis-Barry Grignon de Montfort, et toute cette savante Saint-Jean-Eudes, j'oubliais mon saint préféré, et cette merveilleuse cohorte qui a créé l'Église du XVIIIe, qui a pu combattre
L'esprit des lumières. Peu laïque, oui, enfin,
et finalement, on la retrouve après la Révolution, et Chateaubriand est imprégné de cette espèce de domination du monde qui appartient aux chrétiens quand il suit sa foi. Et Chateaubriand est quand même le restaurateur. C'est pas un exemple moral, Chateaubriand, hein. En tout cas, Céleste, qui a sûrement pardonné comme elle a toujours tout pardonné, ne serait pas là pour témoigner de sa fidélité exemplaire. Mais Chateaubriand est quand même un des plus grands esprits du XIXe siècle qui a réconcilié la religion et la foi et avec la manière d'être des Français.
Vous voyez qu'avec André Damien, on peut se promener au fil des siècles dans l'histoire de l'Église, les premiers siècles, puis toute cette période du Moyen-Âge, puis après toute la période des Lumières et même la période contemporaine. Vous êtes à l'aise dans toutes ces périodes historiques, c'est tout à fait admirable. Un dernier mot sur le pape Jean-Paul II, puisque c'était l'objet de notre conversation d'aujourd'hui. C'est un pape qui me semble particulier par rapport aux autres papes, c'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas seulement à ses ouailles, mais il s'adresse à toute l'humanité. Pourquoi ? Comment cela est-il possible, à votre avis ?
Alors, c'est le premier pape, c'est pas le premier pape, et c'est un des premiers papes qui est ouvert au monde. Et qui n'est pas simplement le pape des catholiques. Et certes, la tentation était grande d'avoir cette position, puisque le monde, c'était les catholiques. Et puis, il y avait les sauvages. Enfin, les sauvages étaient...
Acatholisés le plus vite possible.
Acatholisés le plus vite possible. Donc, c'était un problème très simple. Le pape était là pour les catholiques. Brusquement, on s'aperçoit que nous vivons dans un monde où les catholiques, sans être minoritaires, sont quand même plus diminués comme nombre et comme foi. Et alors, le pape a des mots très profonds. Il faut combler le fossé idérant qui sépare les pays riches des pauvres. Au nom de la justice, il conjure ses frères dans l'humanité, en tant que successeur de Pierre, de ne pas mésprimer les affaires du continent africain. Le message universel du pape suppose la liberté religieuse. On ne peut exclure le christianisme de l'histoire de l'homme en quelque partie du monde et sous quelque latitude ou longitude que ce soit. Exclure le Christ de l'histoire de l'homme est un acte contre l'homme. Varsovie, 2 juin 79. Exclure le Christ de l'histoire de l'homme est un acte contre l'homme. C'est ce qui explique que son message est universel et s'adresse à tous les hommes avec le prédicat de la liberté religieuse qu'il reconnaît et sur laquelle il insiste tant.
André Damien, merci. Vous nous avez beaucoup éclairé sur les aspects les plus importants de la personnalité de Jean-Paul II, plutôt que de son histoire et 25 ans de pontificat. On aurait pu aussi raconter ces 25 années. Mais nous avons compris, grâce à vous, et je vous en remercie, nous avons compris l'apport de la nouveauté d'un pape qui n'est pas réformiste dans la doctrine, mais qui a eu un tel rayonnement dans sa nouvelle manière de parler au monde. Merci André Damien.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.